C'est beau, une voix. Elle peut être mélodieuse ou grinçante, métallique ou veloutée, enfantine ou chevrotante, sensuelle ou glaçante, sincère ou trompeuse. C'est beau, une idée. C'est quelquefois un feu d'artifice ou un pétard mouillé, une fulgurance ou une connerie. Ça peut blesser ou consoler. Ça peut aider à vivre, à mourir peut-être. La radio, c'est quoi, papa? Ce sont des voix qui se lancent dans le vide, qui traversent l'espace, qui vont toucher le cerveau, le cœur des gens, à quelques pâtés de maison, de l'autre côté de la planète, et même vers les étoiles. Hé, hey, Marconi, où que tu sois, merci.
François Berman à Marseille. Voilà, salut à toute l'équipe. J'ai écouté la fin de l'émission d'aujourd'hui dans ma voiture garée dans la rue Tapis Vert à Marseille. Et je me suis fait cette réflexion en voyant les gens autour de moi. La rue Tapis Vert, c'est un peu notre sentier local. Hein. Je voyais les gens qui ont des magasins par là, c'est les Juifs et les Arabes qui se partagent et qui vivent ensemble sans aucun problème. Et puis, il y a quelques blacks qui font le ménage et d'autres qui repeignent ici et là des vitrines et qui entretiennent les magasins. Et puis, des Asiatiques qui transportent gentiment derrière des diables, qui disparaissent derrière leurs charges portées sur des diables, d'un magasin à l'autre. Et voilà, donc j'ai trouvé que la situation était assez étonnante pour être repérée. Voilà. Au revoir à tous et bon courage.
Oui, mille fois oui, c'est insupportable ces prises d'otages en Irak. Le droit à l'information est un pilier de la démocratie et les journalistes témoignent de la réalité du monde. Certains journaux rappellent leurs journalistes qui ne risqueront plus leur vie à Bagdad ou à Fallujah. Peut-être leur rédaction va-t-elle les envoyer au Darfour pour enfin témoigner de la situation là-bas.
Vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis au 01 56 40 37 37. Je voudrais dire à cette auditrice, et à tous d'ailleurs, que nous pensons beaucoup à notre amie Florence Aubenas, dont nous sommes sans nouvelles, et à son chauffeur. Et à ce propos, j'ai couru dans les couloirs. Hein, je m'excuse, j'ai un peu essoufflé. On est en retard aujourd'hui. Je voudrais faire savoir à tous donc qu'il existe un appel des journalistes arabes pour Florence Aubenas, qui s'appelle « Appel des journalistes arabes, sauvons la vie de Florence ». Et il y a un texte de soutien signé par un certain nombre de journalistes arabes, irakiens, palestiniens, syriens, libanais, égyptiens, Maroc, Algérie, Tunisie, etc. Et on peut prendre contact avec ces journalistes et avec cet appel en allant sur Ben Cédrine, c'est Siem Ben Cédrine, notre ami, vous vous souvenez, cette amie journaliste elle-même, tunisienne, donc qu'on peut contacter, et c'est S Ben Cédrine, hein, Ben Cédrine avec un S devant, @yahoo.com, voilà, pour ceux qui sont intéressés, journalistes arabes qui veulent soutenir de cette façon Florence Aubenas. Aujourd'hui, on va s'intéresser à, figurez-vous, au tsunami, oui. Mais avec l'idée peut-être de dégager d'autres idées. On est dans l'émotion, on est dans le don, on est dans la commotion planétaire par rapport à ce tsunami. On va essayer de penser un peu différemment, de creuser un peu différemment, notamment autour du thème de la dette. Il a été question d'un moratoire concernant les dettes des pays affectés par ce raz-de-marée. Et on va voir que ce moratoire ne réglera rien sur le long terme de façon structurelle. Aussi, on va passer cette heure avec Éric Toussaint, qui s'occupe d'une ONG qui s'appelle CADTM, Comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde. C'est une ONG qui a quelques années d'existence et qui s'emploie à faire comprendre ce qu'est cette dette, c'est pas facile de notre côté d'ici. On sait pas très bien ce que c'est que cette dette. On se dit que si des pays ont une dette, eh ben ils doivent la rembourser. Alors que dans le reste du monde, comme on dit, c'est-à-dire, je pense à l'Amérique latine, je pense à l'Afrique, je pense à une grande partie de l'Asie, eh bien on sait très très bien ce que c'est que cette dette, puisque ces pays passent leur vie, en tous les cas, leurs impôts, leurs revenus à rembourser cette dette. On va essayer de faire comprendre ce que c'est que cette dette et comment un moratoire ne sera absolument pas une solution face à cette l'obscénité inégalitaire que sera démarrée à révéler. On sait bien que nous habitons une terre inégalitaire et de plus en plus inégalitaire, mais cette catastrophe l'a montré d'une manière particulièrement poignante, et en aucun cas, bien sûr, l'émotion, aussi compréhensible fut-elle, ne peut remplacer la politique. Et au fond, c'est ce dont nous allons parler au cours de cette heure avec Eric Toussaint. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, voilà, c'est Bernard. Je voulais te dire qu'une pharmacie chez nous à la campagne vient de se vendre 1 million d'euros dans une ville de 2500 habitants. En moyenne, une pharmacie peut réinvestir son prix d'achat en euros constants tous les 7 ans. Aucun autre commerce n'est aussi rentable. Un visiteur médical gagne en moyenne 4 500 euros net par mois, plus des notes de frais très confortables. Avec l'accord de sa direction, il peut organiser 1 ou 2 congrès, entre guillemets, par an, pour 800 000 euros, dans un petit paradis, station UP de ski en Suisse, cocotier dans l'océan Indien, avion en première classe, hélicoptère, etc. Voilà. Il faut savoir, Daniel, que les prescriptions des médecins sont fliquées par les ordinateurs du réseau pharmaceutique, qui est un monopole de distribution par le grossiste. Ceci détermine les commissions des visiteurs médicaux, et éventuellement, s'ils n'atteignent pas leurs objectifs, on les fout à la porte. J'ai personnellement écrit à Monsieur Douste-Blazy, j'attends toujours sa réponse. Madame Bachelier, qui était chez Marc-Olivier Fogiel ces jours passés, a déclaré qu'elle touchait 11 000 euros par mois d'indemnité députée européenne, et qu'elle gagnerait 3 ou 4 fois plus si elle était restée dans sa pharmacie, etc., etc.
Je vous appelle à propos de l'émission sur les labos pharmaceutiques. Vous avez parlé des médecins et si vous veniez voir comment ça se passe dans les écoles vétérinaires, vous verrez que c'est assez édifiant. Les labos nous font plein de petits cadeaux, alors des petits trucs sympas, des t-shirts, des stylos, super. Mais aussi, ils nous offrent des polycopiers qui sont nécessaires à notre formation. Donc, si on se prive de cet instrument de travail, c'est à nos risques et périls. Il faut savoir aussi que ces labos financent ce qu'on appelle le bizutage. Ah non, pardon, on ne dit plus le bizutage, on appelle ça pudiquement l'accueil. Voilà, donc les labos financent quand même l'alcool, les soirées dans nos écoles. Hein.
Bonjour Daniel, je m'appelle Jackie Silvano, je suis professeur de sciences économiques et sociales à Nice. Je te téléphone pour te signaler que Fillon, le ministre de l'Éducation nationale, nous prépare un projet de loi qui met en danger l'esprit critique. J'espère d'ailleurs que tu consacreras une émission au projet Fillon et à l'éducation. Ma matière, les sciences économiques et sociales, essaie de comprendre au lycée ce qu'est la société, pourquoi il y a du chômage, quels sont les effets de la mondialisation, est-ce que les inégalités sont justes, qu'est-ce qui est à la base du lien social, ce genre de trucs. Et cela semble gêner pas mal de monde. Nous sommes attaqués sur 2 fronts. Tout d'abord, les élèves ne connaîtront pas ce que sont les sciences économiques et sociales lorsqu'ils choisiront l'orientation en première et en terminale, alors que la filière économique et sociale regroupe aujourd'hui 30% des élèves dans l'enseignement général. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous devenons une option facultative en seconde. Deuxième attaque, jusqu'à aujourd'hui, nous avions des travaux dirigés en demi-classe. Là encore, on les supprime pour des raisons budgétaires. Inutile de te dire que tout cela me gonfle, et tu te doutes que je ne suis pas le seul à avoir cette réaction. Tous ceux qui veulent défendre les SES et la formation des citoyens peuvent d'ailleurs signer la pétition sur le site apses.org, APSES.org. Au fait, demain, mercredi, je serai à Paris à 11h à la Madeleine pour manifester. Je t'embrasse, Jackie.
Bonjour, c'est Chantal à Ivry-sur-Seine. J'ai appris au flash d'information de ce midi qu'il avait déjà été récupéré 2 millions d'euros grâce aux SMS qui ont été envoyés pour l'Asie du Sud. C'est bien 2 millions d'euros, sauf que ça a aussi rapporté 300 000 euros aux trois grandes boîtes qui s'occupent des portables. Bref, donc 300 000 euros, c'est bien. Se faire du fric sur le dos des gens qui ont tout perdu, c'est une très très bonne idée. À bientôt, au revoir.
Je vais vous raconter une histoire, une bien triste histoire. Acte 1, scène 1. On est au 17e siècle dans un village africain. Ce décor est le théâtre d'un bien étrange entretien. En effet, c'est ici même qu'a basculé le destin. Y'a un homme aux yeux bleus, aux cheveux blancs flottant au vent. Entre dans le village triomphalement. Le chef l'attend avec sa cour et tous ses fantassins, ignorant encore qu'il allait traiter avec le malin, le marchand de chair, le marchand d'horreur. Alors il accueille à bras ouverts avec les honneurs. Par interprète interposé, il se mit à le proposer. Le peuple l'échange de toute l'histoire de l'humanité. Grand chef, ses miroirs sont pour lui, ses colliers aussi sont pour lui, même ses fusils aussi c'est pour lui. En contrepartie d'hommes, de femmes et d'enfants solides, capturés lors des razzias, pas d'invalides. En un mot, c'est la jeunesse de Farafina qui se vide, à cause de la cupidité de certains de ses chefs avides. Des millions de personnes sont vendues à cause de ce pacte. Fin du premier, que nous réserve le deuxième acte.
Africa for African, wicked people have burned.
Salut, c'est Daniel Mermet, la base et j'y suis avec Éric Toussaint, la dette immorale.
Flight number 2, arriving from...
De scène 1, 20e siècle, même paysage africain. L'esclavage change de visage, devient plus humain. Le destin de la poule aux odeurs d'or se décide à Berlin. L'Occident se partage comme un morceau de pain. Et pour le bien de l'humanité, ce continent doit être civilisé, donc colonisé. Il est peuple d'être sans âme, donc sans moralité. On passe à la scène 2, encore un homme aux yeux bleus, cette fois bien religieux. Il a rendu à son cou une idole en fer. Forgé, pourtant il brûle toutes nos divinités en bois sculpté. Vient-il guider au paradis les prébis égarés ou préparer les prébis à se faire égorger? Les paroles de la Bible deviennent un discours mercantile. Il est plus facile à un chameau, disait-il, de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche entrer au paradis. Allégez-vous de vos richesses, n'en gardez pas un radis. Troisième scène, autour de la chicotte des chaînes, béni par le pape, le colon se déchaîne. Travaux forcés, fort de guerre sur exploitation minière. Tout pour la métropole, rien pour la colonie des misères. Quand on vous frappe sur la joue gauche, tendez la droite. Dis-moi, que nous réserve le prochain acte.
Africa, free Africa, wicked people have been burned.
Fire burn them,
Babylon is half full, black man has the control.
Fire burn them, fire burn them.
On a commencé avec ce groupe sénégalais qui s'appelle Pifroas parce que ils ont fait une chanson, et il y en a beaucoup d'autres dans le tiers-monde, dans les pays en développement, qui savent parfaitement comment fonctionne la dette, qu'est-ce que c'est, parce qu'ils vivent les effets de cette dette tous les jours dans leur vie, au point de pouvoir ramener ça à la dimension d'une chanson. Et vous avez vu que il y a une perspective historique qui est tout de suite qui est nécessaire pour faire comprendre ce que fut cette dette. C'est la dette à une histoire. Évidemment que actuellement on est dans l'émotion. Il y a une générosité énorme, une médiatisation énorme de la générosité, et la générosité suit la médiatisation de la catastrophe. N'empêche que derrière, toujours, il y a cette mécanique, ce mécanisme terrifiant qui aspire les richesses du sud vers le nord. Quand on dit le sud, on veut dire en gros les pays en développement, et le nord, en gros, on veut dire l'Occident, c'est-à-dire la civilisation, et les autres, ce sont les barbares d'ordinaire, Bangladesh ou Guatemala, 30 000 morts ici, 20 000 là-bas. Les catastrophes suscitent une émotion beaucoup plus contenue et une solidarité beaucoup plus discrète, mais cette fois, là-bas, ben, on y était. L'Occident, la civilisation, français, allemand, suédois et même Thierry l'Ermite, les bronzés du monde entier y étaient, et contraste effroyable, retentissement mondial, commotion planétaire, l'élan de générosité a été fabuleux face à cette catastrophe naturelle. Mais cette catastrophe était-elle aussi naturelle que cela? Dans un rapport de février 2004, le PNUD, c'est-à-dire le Programme des Nations Unies pour le Développement, s'interroge, faut-il continuer de parler de catastrophes naturelles, car l'impact de ces catastrophes est très différent selon que vous êtes ressortissant d'un pays puissant et misérable. Et l'on cite une catastrophe qui a eu lieu en Iran le 26 décembre de l'année précédente, à Bam, souvenez-vous, ou peut-être que c'est déjà oublié, 30 000 victimes. Il s'agissait d'un séisme de 6,8 degrés sur l'échelle de Richter. Or, quelques mois auparavant, le 26 septembre 2003, une secousse encore plus violente de 8 degrés sur une île du Japon n'a fait aucune victime. La raison, évidemment, c'est que le Japon, pays riche, en tous les cas beaucoup plus riche que l'Iran, eh bien, dispose de constructions antisismiques et de dispositifs qui permettent de parer face à ces catastrophes naturelles. Il faut rappeler que des catastrophes telles que celle-là touchent 211 millions, c'est un calcul aussi fourni par le PNUD, de 211 millions de personnes chaque année, et que bien évidemment, les pays pauvres, la pauvreté des pays pauvres aggrave leur vulnérabilité. Et pourquoi cette pauvreté? Peut-on faire quelque chose contre cette pauvreté? En 20 ans, à peine 20 ans, il y a eu un inversement des valeurs. On aspirait, il y a 20 ou 30 ans, à réduire les inégalités à l'intérieur des sociétés, comme dans le monde entier. Aujourd'hui, on aspire à l'inverse. L'idéologie qui accompagne le néolibéralisme actuel, c'est une idéologie de l'inégalité, et c'est ce que ce tsunami, ce raz-de-marée, a révélé d'une manière aussi poignante, aussi terrible. Et la raison, le moyen de l'inégalité, c'est cette fameuse dette dont nous allons parler aujourd'hui avec Eric Toussaint. Mais auparavant, écoutez le troisième couplet, troisième volet de cette chanson du groupe sénégalais Pifroas, qui peut tout à fait nous servir aujourd'hui d'éditorial.
Troisième mat, première scène, l'époque actuelle. Moins de gaz, moins de village, plus de gratte-ciel. Le chef et sa cour, c'est le président et ses ministres. L'ambiance et les multinationales au nom sinistre. La mondialisation, l'appel, les échanges. Tant-tant. La pacotille, c'est des contrats alléchants. Tant-tant. Vends-moi ton pays, je t'enrichirai pour 100 ans. Encore une fois, le grand chef deal avec Satan. La chicote est désormais économique. La banque mondiale héritière de la coloniale. Et comme par le passé, il applique les mêmes techniques. Oui, les mêmes techniques. Yo, comme des rats, la notre économie est squelettique. Pire que des colonies, les chefs d'État n'ont plus d'éthique. Habillés en couchard, ils tendent la main aux féministes. Dans les salons feutrés, des congrès de fumistes. Scène 2, bourse de Paris ou de Londres. C'est ici que l'on prend, c'est ici que l'on donne. Sa pitance aux pauvres ventres ballonnés. Le géant des bennes, plus le genou abattu baïonné. L'Occident manipule les manettes, devient le parmé. Tu descends un président trop honnête, donc pas net. J'ai mal à l'Afrique, trop de cerveaux sont en j'ai mal à l'Afrique, j'ai mal à l'Afrique, nous réserve donc la suite.
Éric Toussaint, on se retrouve là dans un cadre absolument formidable parce qu'on va naturellement parler du tiers-monde, on va parler de la dette du tiers-monde et on est ici à Bruxelles dans l'hôtel de Métropole qui est un grand hôtel très luxueux du tournant du siècle, un des hôtels les plus prestigieux de Bruxelles et qui renvoie au temps où la Belgique était une puissance industrielle, mais aussi une puissance coloniale. Et je suis sûr que il y a de ça dans votre travail, hein, il y a de ça dans vos préoccupations, il y a l'héritage de tout ça dans les préoccupations de votre CADTM. Alors, il faut rappeler ce que c'est que le CADTM.
Mais le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, c'est un réseau international qui est maintenant présent dans 21 pays sur 4 continents. Il a été fondé il y a 14 ans en Belgique. On l'avait fondé comme une organisation purement belge. Et puis, en fait, à partir de 98, ça s'est étendu internationalement sans que on l'ait décidé. Parce que des gens dans leurs pays respectifs, à commencer par le Togo, le Bénin, la République démocratique du Congo, ont décidé de se constituer en comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde dans leur propre pays.
C'est pas facile pour nous de comprendre que c'est cette histoire de dette, l'air de rien, parce que, évidemment que dans les pays qui souffrent du remboursement de la dette, on sait beaucoup plus, on sait beaucoup mieux, au Mali, ou alors, dans l'un des pays dont on va parler, on sait très bien ce dont il s'agit. C'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est qu'il a été question, suite aux dégâts du tsunami, des tsunamis, il faut dire, d'un moratoire de la dette. Le président de la République française a parlé d'un moratoire de la dette comme mode d'aide aux pays qui sont frappés par cette catastrophe. Et on se dit, ben voilà, ça c'est bien un moratoire, ça veut dire que la dette va être repoussée, les dettes dues par ces pays vont être repoussées, voilà, c'est une aide possible. Et évidemment que pour ceux qui, comme vous, militez pour l'abolition de la dette, en fait c'est une façon au contraire d'entériner la dette.
Tout à fait. Clairement, on est opposé à la proposition de moratoire. Parce qu'un moratoire, c'est simplement dire à quelqu'un qui est endetté que pendant une période donnée que le créancier va fixer, les remboursements vont être suspendus. Le moratoire, c'est une suspension de paiement. Mais à une date donnée, dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, les remboursements doivent reprendre. Donc ça ne règle absolument rien. D'autant que la suspension, ça veut dire que si on suspend pendant 2 ans, ben, il faudra rembourser pendant 2 années de plus. Donc ça règle rien du tout. Il est même possible qu'on continue à calculer les intérêts pendant la période d'arrêt du paiement, de moratoire, et qu'on ajoute cela à ce qu'il faudra rembourser quand les remboursements reprendront. C'est-à-dire que la dette continue d'augmenter pendant que le moratoire est décrété. Deuxièmement, en décrétant un moratoire, en tant que créancier, donc la France qui est créancière, d'autres pays riches, évidemment les États-Unis, d'autres pays européens, et le Japon qui est le principal créancier, d'autres créanciers qui sont la Banque mondiale et le FMI, parce qu'ils octroient un moratoire, se donnent le droit de fixer des conditions aux pays comme l'Indonésie, l'Inde ou le Sri Lanka ou la Thaïlande qui bénéficieraient, entre guillemets, de ce moratoire. Et les conditions, c'est de leur dire de mener telle et telle politique économique, privatiser tel secteur, donner accès de tel marché au transnational, que ce soit Bolloré ou Vivendi dans le domaine de l'eau, Bolloré dans des constructions de barrages et des choses comme ça. D'ailleurs, les autorités indonésiennes ont dit, ben nous, ça nous intéresse pas le moratoire. Depuis 1 an, on a arrêté les accords qu'on avait avec le Fonds monétaire international. Et si vous nous octroyez un moratoire, vous allez revenir avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui vont de nouveau nous dire ce qu'on doit faire. Or, ceux qui nous ont dit de faire a amené à la catastrophe économique et sociale. Donc on n'en veut pas. L'Inde et la Thaïlande ont dit, on ne veut pas même de l'aide internationale, on ne veut pas de votre aide, on va reconstruire nous-mêmes, on ne veut plus dépendre de l'extérieur et des gens, parce qu'ils nous aident, de l'extérieur, veulent nous imposer tel ou tel comportement.
Il faut payer. Paye,
pago, paye, pago, paye, pago, paye. Ainda ontem era amigo, nem parece hoje em dia. Por causa do quadro antigo, regulando lixaria. Escuta o que eu não digo, veja se estou errado. Como se esqueceu o passado, que o futuro é que nos guia.
Alors, ce qui est intéressant à faire comprendre, c'est la dette elle-même. Comment cette dette s'est installée? Parce qu'on est en train de vous écouter, mais on dit, enfin, quand même, si ces pays ont des dettes, ont contracté des dettes, que ce soit auprès des pays bailleurs de fonds que vous venez de citer, ou de la Banque mondiale et du FMI, après tout, ils doivent rembourser cet argent. Il faut quand même bien rembourser l'argent qu'on doit. Alors, expliquez-nous comment l'histoire de la dette, si c'est possible, ouais. en quelques
mots. Alors on va essayer d'aller fort vite. Je dirais l'histoire de la dette. Aujourd'hui, elle se monte à 1 600 milliards de dollars. La dette extérieure publique des pays en développement où vivent 87% de la population mondiale. D'où vient-elle? Grosso modo, il faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand naît la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. C'était en 1944 à Bretton Woods. Ces institutions visaient à relancer l'économie des pays qui avaient été dévastés par la guerre en octroyant des prêts de reconstruction. La Banque mondiale a prêté de l'argent à la France, par exemple, en 1947 pour la reconstruction de la France, 250 millions de dollars. Pour participer, en fait, de la reconstruction, la Banque mondiale a prêté également aux colonies de ces grandes puissances européennes. Donc la Banque mondiale, à la demande de la France, a prêté de l'argent au Gabon, à l'Afrique occidentale française qui plus tard deviendra le Sénégal, le Mali, etc. La Banque mondiale a prêté au Congo belge, Congo Kinshasa d'aujourd'hui. La Banque mondiale a prêté à l'Ouganda, le Nigeria, etc. Et en fait, la Banque mondiale a endetté les colonies africaines des pays européens. Et figurez-vous qu'à l'indépendance de ces pays, à partir de 59, 1960, les États indépendants ont dû assumer les dettes qui avaient été contractées par les métropoles coloniales en leur nom. La France avait contracté un emprunt pour le Gabon, pour mieux exploiter le pétrole du Gabon, avait emprunté de l'argent pour le Congo, pour mieux exploiter ses ressources forestières et construire une voie de communication pour amener le bois de construction vers un port maritime. La Belgique avait emprunté de l'argent pour construire une voie de communication de la côte congolaise vers l'intérieur de manière à sortir du Congo l'uranium, les minerais précieux, etc., qui dopaient l'économie belge. À l'époque, l'Angleterre avait emprunté de l'argent pour que le Kenya augmente sa production de thé. Donc en fait, on a endetté les pays africains qui étaient des colonies entre 1945 et disons le début des années 60 au profit des métropoles. Et quand ces pays se sont retrouvés indépendants, ils avaient déjà au pied un nouveau boulet qui était le boulet de l'endettement extérieur. Après ça, la Banque mondiale et les banquiers privés internationaux, là c'est surtout les années 60 et 70, ont augmenté les volumes de prêts avec des projets qui étaient chaque fois d'énormes projets, de grands barrages. On a construit, il faut savoir qu'aujourd'hui sur la planète il y a 45 000 grands barrages. C'est des barrages qui ont plus de 15 mètres de hauteur de retenue d'eau. On a vendu, je dirais, clé sur porte, des centaines de barrages aux pays du tiers-monde, en leur prêtant de l'argent, et l'entièreté de l'argent ou quasiment l'entièreté de l'argent qui était fourni aux pays qui allaient construire un barrage, pour prendre cet exemple-là, repartait directement au nord pour acheter du matériel de construction, du béton, des techniciens, etc., fournis par les entreprises de BTP des pays du Nord. Troisième étape, amplifié au cours des années 70, quand l'économie des pays les plus riches est entrée dans une récession internationale, c'était à partir de 73-75, et les pays du Nord ont augmenté les prêts aux pays du Sud pour essayer de limiter l'augmentation du chômage dans les pays du Nord. Donc, à de nouveau avec l'idée, on prête de l'argent au Sud, le Sud avec cet argent nous achète des marchandises, ce qui maintient un certain taux d'emploi au Nord. Donc ce qu'on prête revient immédiatement dans nos économies. Dans tout ce processus, pour convaincre les pays de s'endetter, les banquiers privés, les gouvernements du Nord, la Banque mondiale, favorisaient des élites locales, des gouvernements en place, qui, dans certains cas, pouvaient être réticents à s'endetter, et pour les amener à s'endetter, on leur disait...
C'est ça, c'est que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait la complicité des élites locales, du pouvoir locaux à chaque fois.
Absolument, et donc il y a des gouvernants du Sud qui allègrement ont endetté leur pays en se disant qu'ils pouvaient prélever sur les sommes qui étaient prêtées à leur pays, leur commission. Et Mobutu, au pouvoir, après avoir fait assassiner Patrice Lumumba en 61, donc Mobutu, qui a dirigé le Zaïre, enfin, le Congo devenu Zaïre, jusqu'en 1997, Mobutu prélevait une commission d'environ 10% sur tous les prêts qui étaient faits à son pays. Donc,
de même Suharto pour l'Indonésie.
Voilà, Suharto pour l'Indonésie, mis en place par les Américains à partir de 1965, en même temps que Mobutu d'ailleurs, a allègrement endetté son pays. Donc là, il y avait une complicité évidente de régimes, beaucoup de régimes dictatoriaux. Suharto est venu en place en Indonésie en faisant assassiner 500 000 civils indonésiens en les accusant d'avoir participé à la préparation d'un coup du parti communiste qui, soi-disant, voulait prendre le pouvoir. On a massacré 500 000 civils et mis hors du pouvoir le président nationaliste Sukarno en 65. Pour venir maintenant dans les pays qui sont au centre du drame du tsunami, Sukarno, c'est un gars qui avait dirigé la lutte d'indépendance de son pays. L'Indonésie est une colonie hollandaise. Il s'était mis à dos les puissances occidentales en nationalisant des entreprises hollandaises, en annonçant qu'il allait nationaliser des entreprises pétrolières et en retirant son pays de la Banque mondiale. En 62, Sukarno dit « on en a marre des dictats de la Banque mondiale, on quitte cette banque ». Il est renversé par le général Suharto, appuyé par les États-Unis, et le lendemain du coup, des massacres, l'Indonésie adhère à nouveau à la Banque mondiale, qui prête massivement de l'argent à partir de la fin des années 60, quand la Banque mondiale sera dirigée par Robert McNamara, qui avait été, avant de devenir président de la Banque mondiale, secrétaire d'État à la défense des États-Unis, c'est-à-dire il était le Donald Rumsfeld de la guerre du Vietnam, McNamara, et il devient président de la Banque mondiale.
Alors, Eric Toussaint, on continue là, c'est passionnant ce que vous racontez, parce que là on est sous le choc de ce qui s'est passé en Asie du Sud, on a vu ces images terribles, et tout le monde voudrait venir en aide, on est saisi par la compassion, il y a un élan de générosité formidable, et puis on nous parle de ce moratoire de la dette, mais si on vous écoute, en fait, le meilleur service à rendre à ces pays, si vraiment vous voulez faire quelque chose, ce serait pour ces pays et pour l'autre, mais en tous les cas pour les pays concernés, l'abolition de la dette. Ça, ce serait une véritable mesure qui permettrait à ces pays d'entrer dans le développement et en tout cas de faire face au désastre.
Ces pays, l'année passée, pour leur dette publique, ont remboursé, donc je parle de l'Inde, l'Indonésie, le Sri Lanka, la Thaïlande, ces quatre pays-là, ensemble, ont remboursé 31 milliards de dollars pour leurs dettes. J'ai dit que l'ensemble des pays endettés ont remboursé plus de 300 milliards. Donc, un dixième a été remboursé par ces quatre pays-là, 31 milliards. On leur propose une aide qui atteindra un maximum de 3 milliards
de dollars. C'est ce qu'on a dit à Jakarta, mais c'est pas encore donné. Il y a des effets d'annonce. Voilà. Donc, au lieu de leur donner ou prêter 3 milliards de dollars, qu'on ne prélève pas les 31 milliards de dollars qu'ils doivent rembourser, mais qu'on ne les prélève pas ni aujourd'hui ni après, évidemment, parce que si c'est pour dire simplement cette année-ci vous ne payez pas, mais vous payerez une année de plus dans les 10 ans qui viennent, ça va rien régler du tout. Ce qu'il faut prioriser, c'est redonner au gouvernement de ces pays des marges de manœuvre budgétaires pour qu'ils aient de l'argent frais à investir dans des programmes de reconstruction de logements, de reconstruction d'infrastructures et de construction et d'amélioration structurelle qui permettrait aux victimes, aux survivants de ce drame de vivre dorénavant mieux pour le futur, en tout cas leurs enfants, de vivre dans des logements décents, résistants. Le drame qu'on a connu a une répercussion en termes de perte de vie humaine qui n'aurait pas été enregistrée si on avait un autre type d'infrastructure, un autre type de logement et des infrastructures pour apporter des soins sur place immédiatement.
Et est-ce que les gouvernements des pays concernés, c'est-à-dire, je le rappelle, Thaïlande, Indonésie, Sri Lanka et Inde, demandent cette abolition? Je ne les entends pas demander l'abolition de leur dette.
Non, ce sont les mouvements sociaux de ces pays qui demandent l'abolition de la dette. Et les gouvernements, eux, sont dans un système où l'endettement leur convient quelque part parce que se maintient ce qu'on a décrit tout à l'heure, à savoir des comportements de corruption. Quand de nouveaux prêts arrivent, ce que le pays, pour pouvoir rembourser, contracte de nouveaux emprunts, ben, il y a de nouvelles commissions possibles qui peuvent être versées et qui enrichissent.
C'est le cas pour les quatre États qu'on a cités.
C'est le cas pour l'Indonésie, là, de manière absolument évidente. Pour le Sri Lanka, la Thaïlande et l'Inde également. Mais disons, le summum, c'est l'Indonésie, au niveau de la corruption et d'être tout à fait intoxiqué et dans une relation d'esclavage par rapport à l'endettement.
Mais à l'intérieur de ces pays, alors si les gouvernements, comme vous le dites, ne réclament pas, on comprend, l'abolition de la dette, est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces quatre pays, pour se limiter aux quatre, parce qu'il y en a plus que ça qui sont frappés, mais enfin, limitons-nous à ces quatre exemples, est-ce qu'il y a des mouvements à l'intérieur ou des partis d'opposition qui, eux, luttent pour l'abolition?
Tout à fait, il y a de puissants mouvements sociaux, paysans, de pauvres, de milieux urbains, si on veut, 200 logis organisés en mouvements sociaux. Il y a dans chacun de ces pays une campagne pour l'abolition de la dette extérieure. Il y a des intellectuels, des écrivains progressistes qui se battent pour l'abolition de la dette extérieure parce que...
Est-ce que la population, vous citez des mouvements, des militants, des intellos, etc., d'accord, est-ce que les populations... Alors, c'est vaste, on est en train de parler de pays très différents les uns des autres, de cultures, de niveaux de vie, développement différents, de cultures différentes, etc. Mais est-ce que les populations, dans leur généralité, sont conscientes de ces phénomènes?
Bon, c'est un des degrés divers, mais ça ne se limite pas du tout à des cercles réduits de militants. Il y a eu des manifestations de dizaines de milliers de personnes, voire de centaines de milliers de personnes, dans les dernières années, en faveur de l'annulation de la dette. Et donc nous sommes en contact, nous avons le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde a une organisation en Inde qui est très active dans le domaine de la lutte pour l'abolition de la dette, qui a joué un rôle très important lors du Forum social mondial à Mumbai en janvier 2004. En Indonésie, il y a une puissante coalition qui a réuni des centaines de milliers de membres et qui a notamment fait pression il y a 3 ans pour que le gouvernement indonésien interrompe les accords avec le Fonds monétaire international en disant on ne veut plus que Washington, via le Fonds monétaire international, nous dicte des politiques tout à fait... néfaste. Donc oui,
parce que c'est ça dont il s'agit. Parce que c'est ça. Derrière la dette,
voilà, il y a des politiques tout à fait concrètes. Et je voudrais donner là un exemple précis. Le Sri Lanka, à côté de l'Indonésie, est un des deux pays les plus touchés par le drame du tsunami. le Sri Lanka, hein, il y a eu 15 000 morts, mais pour une population réduite comparée à l'Inde et à l'Indonésie, donc le désastre humain est tout à fait considérable au Sri Lanka. Pour la population sri-lankaise, que représente l'intervention des créanciers, par exemple de la Banque mondiale? Ça représente quelque chose de très concret. La Banque mondiale mène une politique depuis 3 ans qui consiste à dire les Sri-Lankais ne doivent plus produire du riz. Les Sri-Lankais doivent importer le riz qui est produit à des coûts inférieurs au Vietnam et en Thaïlande. Or, la population sri-lankaise, le riz joue un élément central, non seulement dans son alimentation, mais dans sa culture. Et c'est la production principale, c'est le riz. Ensuite, c'est le thé. Au niveau de la population sri-lankaise, il y a une conscience très claire que les créanciers utilisent leur position de créancier pour imposer une politique absolument dramatique pour eux, qui va même au centre de leur culture profonde. C'est un système aussi qui va faire perdurer les prêts. La Banque mondiale prêtera de l'argent au Sri Lanka avec le FMI pour que le Sri Lanka ait des devises pour acheter du riz vietnamien et du riz thaïlandais. Donc, c'est ça que représente concrètement l'enchaînement suivant. La dette donne au FMI et à la Banque mondiale un instrument pour imposer des politiques qui détruisent des éléments essentiels de la culture de ces pays.
Alors, imaginons que Jacques Chirac, au lieu de parler d'un moratoire sur la dette des pays concernés, ait parlé de l'abolition. Nous allons abolir la dette de ces pays.
S'il y a abolition, les gouvernements de ces pays, donc s'il y a réellement abolition de la dette, les gouvernements de ces pays ne sont plus tenus, comme ils le sont jusqu'à aujourd'hui, par l'obligation d'appliquer les recettes dictées à partir de Washington et du Club de Paris et qui consistent à privatiser un maximum de secteurs de la vie économique et sociale.
Petite note en bas de page, le Venezuela a une dette extérieure.
Le Venezuela a une dette extérieure et la rembourse en utilisant une partie de la rente pétrolière. Et la chance du Venezuela, c'est que comme le baril
très élevé en ce
est
moment,
à $40, après avoir remboursé la dette, il reste encore une marge de manœuvre pour des programmes sociaux. Par contre, le Sri Lanka, l'Inde ou l'Indonésie sont pas des exportateurs de pétrole, sont des exportateurs de thé, de bois, de riz, dont les prix sont tout à fait instables, et pour le thé, par exemple, est en chute libre. Et donc, eux, leurs revenus baissent, et donc, une fois qu'ils ont prélevé dans le budget public de quoi rembourser la dette extérieure, il reste plus grand-chose pour mener des politiques sociales.
Voilà, on a compris que ça débloquerait des sommes considérables.
Ça débloquerait des sommes considérables, évidemment.
Mais est-ce que chacun de ces États est tout prêt à dire, voilà, ah ben maintenant, on a de l'argent, on va être très gentil, et on va faire de l'éducation, on va faire de la santé.
Ce qui est absolument clé, c'est l'intervention active des citoyens, des citoyennes de ces pays pour exiger que l'argent qui peut être potentiellement utilisé à bonne fin, le soit réellement. C'est-à-dire qu'il faut une intervention citoyenne pour que les projets de développement qui soient adoptés avec l'intervention active des populations pour dire c'est tel projet qu'il nous faut plutôt que tel autre dans le domaine de la reconstruction de logements, dans le domaine des infrastructures, etc. Il faut qu'il y ait un contrôle citoyen sur l'utilisation des fonds pour empêcher que se reproduisent des phénomènes massifs de corruption, de détournement de fonds, etc. Maintenant, ce que nous devons faire, nous, au Nord, ce que moi j'essaye de faire, c'est d'aider les mouvements sociaux, les mouvements citoyens de ces pays, les parlementaires de ces pays qui mènent bataille pour qu'il y ait un contrôle, une transparence, etc., les appuyer à partir d'ici en mettant sous pression en Belgique, en France et dans les autres pays, nos autorités.
Aux États-Unis aussi, il y a un mouvement.
Aux États-Unis, bien sûr. Il y a un important mouvement aux États-Unis qui s'appelle 50 ans, ça suffit, parce que après 50 ans d'existence de la Banque mondiale en 94, le FMI, un grand mouvement s'est mis en place pour dire il faut d'autres institutions et changer complètement de politique financière internationale. Donc, dans le Nord, ce que nous faisons, c'est je dirais, est un peu le soutien aux actions menées dans le Sud. C'est pas à nos mouvements du Nord à se considérer comme les mentors des mouvements du Sud sur la question de la dette. Les mouvements du Sud savent très bien dans leur chair, dans leur vie quotidienne, ce que représente le remboursement de la dette. Et leurs actions doivent être soutenues. Et donc moi, mon interlocuteur privilégié, ce n'est pas Chirac ou le roi des Belges, c'est mes frères et mes sœurs des pays du Sud qui organisent les actions et des parlementaires de ces pays-là qui me disent « Est-ce que tu viendrais pas dans notre pays nous aider à auditer la dette extérieure, faire une expertise sur le caractère odieux de cette dette contestée, la valeur des contrats, etc. et nous aider à donner des arguments parce que vous avez accès, vous, au Nord, à des sources d'informations que nous, au Sud, nous n'avons pas. Donc, corroborer nos données et renforcer l'action qui est entreprise, notamment dans les parlements locaux. Par exemple, je disais, en Indonésie, les parlementaires ont imposé au gouvernement de rompre les accords avec le FMI. Aux Philippines, qui étaient moins touchées que l'Indonésie, mais qui a été touchée par le tsunami, aussi, là, il y a un processus d'audit qui a été décidé par le Parlement philippin, et donc on va analyser la dette extérieure actuelle de la Philippine, on va le passer au scanner pour démontrer le caractère nul de cette dette, le caractère odieux de cette dette. Donc là, on fait un très gros travail.
Mais quelles seraient les conséquences sur les économies des pays riches? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on doit vous objecter.
Bon, ben, franchement, elles seraient très bonnes, les conséquences, parce que...
Faut quand même pas qu'on s'appauvrisse trop.
Non, mais franchement, si les pays endettés qui consacrent essentiellement une grande partie de leurs ressources à rembourser des banquiers du Nord pouvaient investir ces ressources de nouveau dans un développement écologiquement durable et socialement juste. Donc là, ça implique l'intervention des populations. Je dis bien, j'ai pas confiance dans le gouvernement indien en soi s'il n'y a pas une mobilisation de la population indienne pour dire on veut telle ou telle chose, on veut que l'argent aille dans telle direction et pas dans telle autre. Mais si cet argent est dépensé dans des projets de développement adéquats, ça entraînera une demande internationale croissante. Ces pays vont retrouver un pouvoir d'achat qui doit d'abord être dépensé pour fournir de l'emploi dans leur pays, à l'intérieur des premiers. Il y a énormément de sans-emploi là-bas. Il y a énormément de gens qualifiés, capables de réaliser les travaux, les grands travaux nécessaires. Mais de toute manière, il y aura toujours la nécessité de faire des commandes d'équipements, etc., parce que les industries locales ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. Et donc, ça va relancer la demande au niveau mondial. Alors, je suis pas pour la croissance n'importe comment, je suis pour un autre modèle de développement et pas un modèle consumériste et productiviste, mais agiter, si tu veux, la menace d'une dépression au Nord parce qu'on arrêterait les remboursements, c'est complètement faux, c'est complètement mensonger. En fait, ça améliorerait la situation du Nord.
Il faut payer.
Il y a une dette historique. Il y a quand même une dette historique. On va finir l'entretien en revenant au décor dans lequel nous sommes. Hein, c'est-à-dire ce superbe hôtel, le Métropole, ici à Bruxelles, qui doit beaucoup à l'exploitation du tiers-monde, quand
bien
même.
Bien sûr. Bien sûr, là.
Enfin, c'est un trophée de la colonisation.
Bon, on est à Bruxelles, les principaux grands bâtiments, les principaux monuments, d'avoir le palais de justice, le monument du cinquantenaire, cet hôtel, eh bien tout ça s'est construit à la fin du 19e, début du 20e, avec les énormes revenus qui étaient tirés du Congo belge, qui était la propriété privée du roi des Belges à l'époque. Une colonie où on coupait la main de ceux qui produisaient pas assez de caoutchouc. Donc effectivement, il y a une dette historique de nos pays, une dette historique de la France à l'égard des peuples de ces anciennes colonies, il y a une dette historique de la Belgique à l'égard de ceci, et il y a une dette historique de la Grande-Bretagne, la puissance de la Grande-Bretagne, ça a été l'exploitation éhontée du Sri Lanka et de l'Inde. Et la puissance de la Hollande, c'était l'exploitation éhontée de l'Indonésie.
Et pour vous, la dette, c'est la prolongation de la colonisation par d'autres moyens?
C'est la prolongation de l'esclavage et de la colonisation sur un autre moyen. C'est pour ça qu'on parle d'abolition. On a aboli l'esclavage, on a aboli le système des colonies, enfin, on l'a remplacé par un autre système néocolonial, mais il faut abolir le système de la dette sans qu'il soit remplacé par un nouveau système de domination. C'est-à-dire que, pour moi, l'abolition de la dette est une solution nécessaire, mais insuffisante. Il faut d'autres mesures à d'autres niveaux, au niveau du commerce, au niveau de taxes globales. Bien sûr, l'abolition de la dette, c'est pas l'œuvre de Colomb, c'est pas le truc qui va permettre de débloquer tout. Si on ne fait qu'abolir la dette et qu'on ne touche pas aux autres éléments, ben le lendemain, il y aura à nouveau un processus d'endettement qui... Mais il faut bien commencer par tirer le fil quelque part pour que la pelote s'amoindrisse. Donc moi, je tire sur la question de la dette, mais je suis actif avec les amis qui travaillent sur la question du commerce juste, sur ceux qui se battent dans d'autres domaines comme l'environnement, etc.
Voilà, drop the debt, annuler la dette pour aider les populations frappées par le raz-de-marée. C'est une solution évidemment à plus long terme, mais c'est une solution sans doute efficace. Merci à Eric Toussaint. Je rappelle le CADTM, Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, www.cadtm.org. Un bouquin sur cette question. Ils ont écrit pas mal de livres là-dessus. 50 questions et 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, de Damien Millet et Eric Toussaint. Ou bien encore la Jamaïque dans les taux du FMI, la dette expliquée aux amateurs de reggae, aux fumeurs de joint et aux autres. C'est à l'esprit frappeur. Voilà. Également demain, manifestation à 12h30 devant le club de Paris, métro Bercy à Paris, pour l'annulation de la dette des pays d'Asie du Sud. Des informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique de l'émission Là-bas, si j'y suis. Et jusqu'à demain, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio France. Technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent, Antoine Chaot, Yann Chouquet, Pascal Hupp. Pascal Hello, c'est l'équipe de Là-bas, si j'y suis. Le répondeur, c'est Christophe Imbert qui s'en occupe. Et le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 17h pour la base si j'y suis. Je vous laisse au bout de 37 secondes de réclame avec Frédéric Bonneau pour Charivari. Salut.